talmudique. L'Europe est au centre de notre actualité, mais justement, l'Europe n'est pas un centre. Elle n'est pas un centre fixe, en ce sens qu'elle se définit depuis son origine, mythique ou historique, comme un mouvement de population, invitant à penser l'identité européenne comme une identité voyageuse, je serais tenté de dire une identité trajective, pour reprendre un adjectif cher au géographe et philosophe Augustin Berque. Une identité qui n'enferme pas les personnes dans un lieu, dans le lieu définitif de leur séjour ou résidence, mais soucieuse des mouvements, des espaces traversés, attentive à l'origine, voire aux origines multiples dont nous sommes tous porteurs à un degré ou à un autre. Trajectif dont le texte biblique, qui fonde aussi la civilisation de l'Europe, témoigne à sa façon par ses héros, qui viennent toujours d'ailleurs. On se souvient d'Abraham, dont la première parole qui lui fut adressée fut une injonction à quitter la maison de son père, son lieu de naissance et sa patrie pour aller vers une autre terre. Europe, qui est ce lieu non-lieu, dont témoigne aussi si joyeusement le soleil des terres d'outre-mer. On peut se demander si le peuple juif, par son expérience souvent tragique, n'aurait pas, au-delà des clichés d'accusation de cosmopolitisme, un lien privilégié avec l'Europe. Les livres d'histoire nous en racontent les périples douloureux et les haltes sereines. Et c'est sans doute aussi, et peut-être d'abord, dans la littérature, que l'on peut découvrir cette identité trajective. Comment se sentir européen sans espace commun? Une construction institutionnelle ne suffit pas, il faut une histoire commune, une connaissance commune, ce que d'une certaine façon offre la littérature et la littérature juive, et particulièrement yiddish, où l'on découvre des trajectoires de vie où c'est l'Europe qui est mise en scène. C'est en effet dans les péripéties de ces familles déracinées par les tourments continus à travers l'histoire et tout récemment au XXe siècle par les crimes du Troisième Reich que l'on découvre une part essentielle de l'Europe, de ces contrées à la fois si proches et si lointaines. Dans cette littérature, on voit apparaître des villages, des bourgs et des villes, des hommes et des femmes et des coutumes et toute une vie qui, sans ces récits, serait restée à jamais inconnue et oubliée. Et c'est à l'une de ces œuvres littéraires que j'aimerais que nous consacrions l'émission d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Une œuvre qui a inventé un nouveau genre littéraire pour dire cette trajectivité identitaire et dont les héros, à leur insu, ont dessiné les contours d'une Europe qui fut détruite mais dont le récit offre une forme de résurrection qu'il faut interroger. Si je vous dis que son auteur s'appelle André Schwarzbart, je suis sûr que vous penserez immédiatement au Dernier des Justes, son roman qui reçut le prix Goncourt en 1959. Un livre extraordinaire, mais qui n'est que la partie émergée de l'iceberg, car une immense œuvre y fait suite, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Francine Kaufmann, bonjour.
Marc-Alain Waknin, bonjour.
Francine Kaufmann, vous êtes professeure émérite de l'université Bar-Ilan en Israël. Les auditeurs vous connaissent bien pour vos travaux sur la traduction, mais vous êtes non seulement l'une des plus grandes spécialistes d'André Schwarzbart, à qui vous aviez consacré votre thèse de doctorat et un livre important, mais vous êtes aussi la personne à qui l'on doit la constitution de la plus grande partie des archives de l'œuvre d'André Schwarzbart qui viennent, il y a peu de temps, d'être remis à la Bibliothèque nationale par son épouse, l'écrivaine Simone Schwarzbart. Et vous êtes actuellement en train d'écrire une très volumineuse biographie sur cet auteur qui vous accompagne depuis si longtemps. Comment tout cela a commencé? Qu'est-ce qui vous a destiné à cette rencontre de l'œuvre et de l'homme, Francine Kaufmann?
Eh bien, au départ, étant universitaire et voulant entamer un doctorat, je me suis demandé quel serait le sujet qui me bouleverserait ou qui me toucherait le plus pour me donner la force d'y consacrer quelques années. Et étant fille d'un couple de rescapés de la Shoah, je suis l'aînée de cette première génération après la déportation. Mon père a été déporté à Auschwitz, à Dachau et avant cela dans le ghetto de Varsovie. Et ma mère a été à Drancy, où d'ailleurs elle a rencontré mon père. Et par la suite, elle est entrée dans la résistance. Son père a été assassiné parce qu'il n'a pas voulu dénoncer le réseau, etc. Donc, fille d'une telle famille, je voulais travailler sur la Shoah. Et j'ai commencé mon doctorat en 1968 à Nanterre. Je venais de terminer ma maîtrise et j'ai déposé mon sujet en juin 68. On ne parlait pas de littérature de la Shoah, mais je voulais faire un doctorat de littérature comparée, puisque je connais aussi bien la littérature israélienne, entre les juifs écrivains en français et les Israéliens écrivains en hébreu qui ont traité de la Shoah ou de leur civilisation. Et donc j'ai travaillé pendant au moins 4 ans sur l'ensemble de cette littérature, mon professeur me poussant sans cesse à réduire. Et finalement il m'a dit l'idéal ce serait de choisir un seul auteur et idéalement un seul livre. De tout ce que j'avais lu en 4 ans, je me suis dit le plus représentatif, c'est Le Dernier des Justes d'André Schwarzbart, parce que c'est à la fois un très grand roman construit littérairement, ça n'est pas un témoignage, il y avait beaucoup de témoignages ou de récits romancés. Là, c'est vraiment une fiction composée sur la Shoah. Et deuxièmement, on y trouve d'une part l'histoire de l'antisémitisme en Europe et d'autre part la réaction juive en Europe à cet antisémitisme, donc la spiritualité juive.
Alors dans mon introduction, j'ai parlé justement de l'Europe et du trajectif. En quoi, à sa façon, l'œuvre d'André Schwarzbart dessine-t-elle l'Europe ? Sa biographie nous invite à le penser, mais aussi le genre littéraire qu'il initie pour son premier roman. Vous venez aussi d'en parler. Commençons par la biographie qui, dans notre cas, ne peut se détacher de l'œuvre Francine Kaufmann.
Eh bien, André Schwarzbart est né à Metz, dans une famille d'origine polonaise particulièrement pauvre. Il a vécu du côté de la rue juive qui s'appelle Anjurue, où il est né, il a grandi. Et ensuite, ils ont traversé la Moselle pour s'installer dans le petit îlot qu'on appelle le Pontifroi, où finalement, c'est une sorte de shtetl, les juifs parlant le yiddish et l'atmosphère étant très très juive polonaise. Il allait à la synagogue polonaise de Hadass Yeshurun, de l'autre côté de la Moselle, donc aujourd'hui la grande synagogue de Metz est à côté, Hadass Yeshurun existe toujours, une atmosphère très particulière. Et lorsqu'il a commencé à écrire, c'était dans l'intention de retracer la civilisation perdue de ses ancêtres, puisque ses parents ont été arrêtés en 1943, d'abord le grand frère aîné Jacques, qu'il adorait, puis le père, ensuite sa maman avec un bébé qu'elle venait de mettre au monde à Saint-Paul-de-Lizonne où ils étaient réfugiés, et une grand-tante. Et cette déportation en 1943 était pour lui une rupture avec son histoire, une sorte de, aussi une perte de la foi. Il est devenu, à 14 ans et demi, l'aîné de la famille, chargé de ses 3 petits frères et de sa petite sœur. Et c'est là que commence l'aventure d'André Schwarzbart, juif d'origine polonaise, mais dont les parents ont vécu eux-mêmes une tribulation à travers l'Europe, puisque sa maman est passée sans doute par l'Allemagne, puis est née elle-même en Suisse de parents qui avaient donc fait cette trajectoire. Et ensuite, elle est venue à Metz pour épouser un juif polonais qui venait d'arriver de Pologne.
Et qui est né en 1928.
Ça, c'est André Schwarzbart, André né Schwarzbart. En 1928, à Metz.
À Metz. Alors, c'est une biographie qui n'est pas sans lien avec la vôtre, ce que vous avez découvert avec le temps. C'est important pour l'anecdote et pour encore mieux comprendre la passion et l'empathie de la chercheuse que vous êtes, Francine Kaufmann.
Oui, je n'ai pas du tout pris en considération le fait qu'André Schwarzbart était né à Metz quand j'ai commencé. Or, mes deux parents sont nés à Metz. Et c'est parce qu'ils sont nés à Metz qu'ils se sont rencontrés dans le camp de Drancy, parce que on a indiqué à mon père qu'il y avait deux adolescentes de Metz qui venaient d'arriver. Et donc, il a été les prendre sous sa protection. Et l'aînée était ma maman. Donc, Metz avec des récits parallèles, parce que très vite, quand j'ai rencontré André Schwarzbart, ma mère m'a dit de l'inviter à la maison. Et ils se sont trouvés un peu comme frères et sœurs, avec un tas de souvenirs communs. C'était absolument bouleversant. Et finalement, je me suis rendu compte que beaucoup de mes propres racines, puisque mes grands-parents sont aussi polonais, passés par l'Allemagne et avant d'arriver à Metz, j'ai retrouvé tellement de résonance que je me suis rendu compte a posteriori que le roman me parlait peut-être aussi par cette histoire commune. Et j'ai même découvert que l'épouse du cousin germain de maman avait été la babysitter des enfants Schwarzbart, que mon oncle par alliance du côté de mon père avait grandi avec les cousins de Schwarzbart. Maman était amie d'enfance de la cousine germaine de Schwarzbart qu'elle voyait encore à Paris. Et il m'a semblé finalement que j'entrais dans la famille.
Alors vous avez dit, quand vous avez rencontré André Schwarzbart, vous l'avez rencontré à quelle occasion ?
Eh bien, justement, je faisais mon doctorat, mon directeur de thèse m'a dit, il faut se contenter d'un seul écrivain. Je connaissais déjà bien Le Dernier des Juges, j'avais un tas de notes, mais j'ai été demandée aux éditions du Seuil s'ils avaient gardé des traces du Goncourt. Et en fait, j'ai découvert deux énormes classeurs d'articles de presse, voire de numéros spéciaux consacrés au Dernier des Justes. J'ai dépouillé tout cela, j'ai eu la chance de pouvoir faire des photocopies des articles les plus importants, les autres je les ai prises en note. Et quand je me suis sentie bien prête, j'avais tellement de questions que j'ai demandé au Seuil s'il pouvait me mettre en contact avec l'auteur. Et on s'est rencontrés en août 1972 au Quartier Latin. Et c'est incroyable parce qu'on avait rendez-vous à 8h, je crois qu'on s'est séparés à 1h du matin. Et par la suite, je lui ai envoyé les notes de cette rencontre. Il m'a dit qu'il ne reconnaissait rien. Et il m'a renvoyé un texte corrigé et souvent re-rédigé. Je lui ai demandé l'autorisation de l'inclure dans la thèse comme éclairage. Et après cela, chaque fois que j'avais une question, je la lui ai envoyée par la poste, ou on se rencontrait à Paris, ou on se téléphonait et je prenais des notes. Et donc c'est devenu en fait une rencontre personnelle, sans compter l'amitié qui était née entre ma mère et André, qui faisait que chaque fois qu'il était à Paris, elle l'invitait.
Vous dites, il invente un nouveau genre littéraire. Vous parlez de saga identitaire et encore de saga mythico-historique. Qu'est-ce que vous entendez par là et en quoi c'était une nouveauté dans la littérature, Francine Kaufmann?
Écoutez, j'ai étudié, j'ai fait une maîtrise et d'abord une licence de lettres, même une licence en hébreu, une licence en français. J'ai vraiment étudié tous les genres littéraires. Et ce qu'a fait Schwarzbart ne ressemblait pas à ce que je connaissais des genres littéraires, parce que je m'en suis rendu compte avec le temps, le véritable héros du Dernier des Justes, ça n'est pas Ernie Lévy. Ernie Lévy est le réceptacle de toutes les expériences identitaires de ses ancêtres les Justes, les Lamed Vav. En fait, il ne fait que récapituler dans sa vie et dans son expérience spirituelle les grands moments, les grands temps forts qui ont marqué ses ancêtres. Et ces temps forts peuvent être soit des moments de persécution, Ernie naît au moment de la montée du nazisme, soit des réflexions identitaires. Qui suis-je en tant que juif dans cette Europe qui me méprise, qui me met au banc de la société, voire qui veut ma mort? Au bout d'un certain temps, j'ai compris que le héros, c'était toute l'histoire juive d'Europe et que simplement André avait habillé les épisodes essentiels de l'histoire européenne en choisissant un personnage exemplaire que, par fiction littéraire, il a nommé un Lamed Vav.
Il faut nous expliquer ce que c'est qu'un Lamed Vav.
Oui, bien sûr. Le papa d'André Schwarzbart connaissait parfaitement la littérature chassidique et lui avait raconté que, dans la tradition juive, il y a 36 justes qui permettent au monde d'exister. André Schwarzbart en fait 36 justes qui, par leur souffrance, permet au monde d'exister. Il mêle à cela diverses traditions juives où la souffrance du juste va pouvoir permettre au monde, un peu comme une soupape de sûreté où le trop de vapeur s'échappe par un tuyau qui est le Lamed Vav. Et en fin de roman, on comprend que l'histoire des Lamed Vav, c'est l'histoire des persécutions, de la souffrance des justes, mais c'est aussi parce qu'ils ont en eux la tradition juive qui fait que, selon un épisode du roman dont le héros est le grand-père d'Ernie Mordechai, ils ne rendent jamais les livres. Parce que Mordechai, dans un pogrom, garde serré contre lui le Sefer Torah, le rouleau de la loi, et il refuse, il est prêt à se laisser mourir. Donc cette notion de ne jamais rendre les livres, de continuer la tradition, de la conserver au fil des temps, et en même temps d'être martyr, s'il le faut, plutôt que de renoncer au judaïsme, ça c'est la réaction juive à travers le temps.
Justement, on ne rend pas les livres, on brûle avec, et il y a ce beau texte que rapporte un des héros du livre, en citant Rabbi Hanania ben Teradion, où il est en train de brûler avec le livre, et les disciples lui demandent « qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « je vois les lettres qui s'envolent ».
c'est mieux que ça, c'est pratiquement la dernière page du livre.
Oui.
Lorsque Ernie entre avec son peuple, parce que ça c'est très important, il a voulu partager le destin du peuple, il aurait pu y échapper parce qu'il avait été soldat français, et il se livre à Drancy, il part avec son peuple, il le dit clairement dans le roman, pour être déporté, et au moment où il entre dans la chambre à gaz, on entend le schéma, et Andréa Luce là dans des témoignages, les Juifs se mettent à dire le schéma, et ça évoque aussi Rabbi Akiva, qui, avec Rabbi Hanina ben Teradion, est l'un des 10 martyrs de l'époque romaine. Et il évoque, dans l'esprit d'Ernie, au moment où son esprit va mourir, il évoque Rabbi Hanina ben Teradion, qui, enveloppé dans le livre de la Torah, dans le rouleau de la Torah, voit les lettres s'échapper. Il y a une survie, malgré le dernier des justes, une survie spirituelle du message d'Israël.
J'aimerais que vous nous lisiez le passage, si ça vous dérange pas.
Puis il sut qu'il ne pouvait plus rien pour personne au monde, et dans l'éclair qui précéda son propre anéantissement, il se souvint avec bonheur de la légende de Rabbi Hanina ben Teradion, telle que la rapportait joyeusement l'ancêtre. Lorsque le doux Rabbi, enveloppé dans le rouleau de la Torah, fut jeté par les Romains sur le bûcher pour avoir enseigné la loi, et qu'on alluma les fagots aux branches vertes encore pour faire durer son supplice, les élèves lui dirent « Maître, que vois-tu ? » Et Rabbi Hanina répondit « Je vois le parchemin qui brûle, mais les lettres s'envolent. » « Oh oui, sûrement les lettres s'envolent », se répéta Ernie Lévy, tandis que la flamme qui embrasait sa poitrine d'un seul coup envahit son cerveau. De ses bras moribonds, il étreignit le corps de Golda en un geste déjà inconscient de protection aimante, et c'est dans cette posture que les trouva une demi-heure plus tard l'équipe du Sonderkommando chargée de brûler les Juifs au four crématoire. Il en fut ainsi de millions qui passèrent de l'état de Luftmensch à celui de Luft, je ne traduirai pas. Ainsi donc, cette histoire ne s'achèvera pas sur quelques tombes à visiter en souvenir, car la fumée qui sort des crématoires obéit tout comme une autre aux lois physiques. Les particules s'assemblent et se dispersent au vent qui les pousse. Le seul pèlerinage serait, estimable lecteur, de regarder parfois un ciel d'orage avec mélancolie. Et louer Auschwitz, soit Maïdanek, l'Éternel, Treblinka. Et louer Buchenwald, soit Mauthausen, l'Éternel, Belzec. Et louer Sobibor, soit Chełmno, l'Éternel, Ponary. Et louer Theresienstadt, soit Varsovie, l'Éternel, Vilno. Et louer Skarzyszko, soit Bergen-Belsen, l'Éternel, Janov. Et louer Dora, soit Neuengamme, l'Éternel, Pustchok. Et louer, parfois il est vrai, le cœur veut crever de chagrin, mais souvent aussi, le soir de préférence, je ne puis m'empêcher que Ernie Lévy, mort 6 millions de fois, est encore vivant quelque part, je ne sais où. Hier, comme je tremblais de désespoir au milieu de la rue, cloué au sol, une goutte de pitié tomba d'en haut sur mon visage. Mais il n'y avait nul souffle dans l'air, aucun nuage dans le ciel, il n'y avait qu'une présence.
C'est un texte qui est devenu presque un texte de méditation pour l'humanité, ce dernier Kaddish, je crois.
Plus encore, parce que dans le judaïsme américain conservatif, donc pas les libéraux ni les orthodoxes, mais les conservatifs qui sont un petit peu au milieu, ce Kaddish figure dans le recueil de Tisha B'Av, donc du
jour qui commémore la destruction du Temple.
Voilà. Et tout le monde aux États-Unis, dans cette mouvance juive, connaît ce Kaddish, au point que sans doute quelqu'un venu des États-Unis a proposé à Yad Vashem de placer le Kaddish de Schwarzbart à la fin du périple dans le musée de Yad Vashem, et sur les murs en anglais, avec une traduction en hébreu, le visiteur sort d'avoir vu toute l'histoire des camps et tombe sur ce Kaddish de Schwarzbart.
Alors un Kaddish de Schwarzbart qui est aussi le la mémoire de ceux qui ont disparu de sa famille, parce qu'il a perdu ses parents qui ont été déportés et deux de ses frères dont les noms sont Bernard et Jacques, et des noms qu'il a voulu donner à ses propres enfants qu'il a eu avec Simone, une Guadeloupéenne, et Simone Schwarzbart, et dont l'un des fils, Jacques, est aujourd'hui un saxophoniste de jazz de renommée internationale, dont je voudrais qu'on écoute un morceau. Je l'avais prévu avant, mais comme ça commence par des applaudissements, si je l'avais fait écouter dans la suite de votre lecture, cela aurait été tellement incongru que personne n'aurait compris de quoi il s'agit. Alors il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, dans cette histoire, dans ce trajet de vie, mais en même temps une volonté de la part d'André Schwarzbart d'avoir voulu continuer à vivre, de partager et de proposer aussi une autre histoire dont on va parler tout de suite après cette musique. De cette musique donc n'est pas du tout anodin. Il souligne l'entre-deux mondes dans lequel ont grandi ces deux enfants, Jacques et Bernard, entre le judaïsme d'un père d'origine de Pologne et d'une mère guadeloupéenne, dont une île porte le nom, Brumand. Vous avez évoqué dans votre présentation biographique le début de sa vie sur cette question de la mémoire, de la déportation, mais il y a aussi chez lui l'importance de ce que l'on va appeler le cycle antillais, cycle qu'il définit lui-même comme une dimension juive de lui-même et de son œuvre. Je pense à ce qu'il en dit quelques jours après la réception de son concours dans un interview. Le prochain livre et le suivant ne sont pas à thème juif. Pour moi, le fait d'être un écrivain juif ne réside pas dans le thème choisi, mais dans la manière de le traiter. Pour moi, être un écrivain juif, cela signifie presque la même chose qu'être juif. Cela m'oblige à participer directement ou indirectement à la vie d'êtres qui ne sont pas nécessairement juifs. Et il rappelle à ses intervieweurs que le Talmud parle des justes des nations et qu'être juif, c'est d'abord participer à la vie des hommes, à leurs souffrances, y adhérer intérieurement, essayer d'apporter une lumière dans cette obscurité, essayer d'entrevoir des possibilités de justice réelle vivante. Et il évoque l'histoire chassidique de la cigogne. Qu'est-ce que cette histoire chassidique de la cigogne, Francine Kaufmann?
Oui, il la rapporte plusieurs fois. Et il faut savoir que dans le livre du Lévitique, on donne une liste des animaux permis, qui sont cachers, si vous voulez, et des animaux interdits, qui sont tarefs, qui sont impurs.
Interdits à la consommation.
À la consommation, bien sûr, pardon. C'est dans l'alimentation. Et voilà que la cigogne, qui en hébreu s'appelle Hassida, et Hassida vient de Chassid, qui d'ailleurs est traduite par aussi les justes, les pieux, Hassida la pieuse, c'est un animal interdit à la consommation. Et Rashi se pose déjà la question, pourquoi? Et les maîtres du chassidisme développent la question en disant elle s'appelle Hassida parce qu'elle nourrit ses enfants avec amour, mais elle est impure, interdite à la consommation parce qu'elle ne nourrit que ses enfants et elle ne nourrit pas le reste du monde.
Et donc André Schwarzbart ne voulait pas être une cigogne.
Voilà.
Il voulait s'occuper. Alors la cigogne, c'est bien comme oiseau européen, si on peut dire, puisqu'il y a le voyage, ce trajectif dont nous avons parlé. Mais c'est aussi un oiseau. Alors il voulait pas s'identifier à la cigogne, mais c'est quand même un oiseau qui va rapprocher l'Europe et l'Afrique. Et justement, cette Europe et cette Afrique, pour lui, c'est quelque chose de central, puisque il y a la naissance de ce cycle antillais, et en particulier d'un deuxième roman qui va s'appeler La mulâtresse solitude, dont nous allons parler en détail la semaine prochaine. Mais j'aimerais que vous nous en disiez déjà quelques mots, Francine Kaufmann.
Écoutez, dans un texte de 1967, c'est-à-dire au moment où il reçoit le Goncourt et où il explique, en publiant le premier roman du cycle de La mulâtresse solitude, roman intitulé Le plat-porc aux bananes vertes, qui est un plat traditionnel de Martinique, mais ça choque beaucoup les Juifs de parler du porc. Dans une interview, il explique qu'il a prévu d'écrire 6 volumes qui sont déjà pratiquement terminés d'un cycle antillais qui il fait comprendre que le thème concentrationnaire est le lien commun entre l'œuvre juive et l'œuvre antillaise parce que pour lui dès 1955 il fréquentait même avant dans les années 50 les milieux antillais il s'était tellement amouraché de ce peuple qu'il trouvait optimiste et joyeux malgré la tradition de persécution d'esclavage etc qu'il avait même commencé d'apprendre le créole et il a d'ailleurs abordé en 1959 Simone qui allait donc devenir son amoureuse, sa femme, en créole.
L'anecdote est intéressante parce que c'est pas n'importe où qu'il l'a rencontrée et qu'il l'a abordée, Francine Kaufmann.
C'est vrai, Simone avait perdu sa convocation au bac, elle était venue passer une année à Paris au lycée pour se préparer au baccalauréat. Et André, lui, habitait dans le quartier latin, il avait d'abord vécu rue Vauquelin, et c'est rue Vauquelin qu'on allait chercher les convocations au bac. Et à la sortie du métro Cardinal Lemoine, il voit cette jeune femme qui cherche son chemin, il l'aborde en créole en lui disant « Mais votre créole n'est pas de Martinique, c'est un créole de Guadeloupe, n'est-ce pas ?» Et elle, estomaquée, qu'un blanc l'aborde à Paris en créole, évidemment, s'intéresse à lui alors qu'elle était très prude à l'époque.
Et c'est le très début. Prude, mais très belle.
Très, très belle. Et c'est le début. Et elle l'a trouvé très, très beau, attention. Et elle ne savait pas qu'il y avait des Juifs vivants à l'époque. Pour elle, les Juifs, c'était dans la Bible. Et elle a dit à sa mère, je viens de rencontrer celui que j'épouserai en rentrant de cette rencontre. Et évidemment, cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu si André ne savait pas le créole, si André ne s'intéressait pas aux Antillais. Et il a même participé à 2 colloques de présence africaine sur la littérature noire. Donc, il se passionnait et pour la littérature et pour le peuple noir. Et surtout, il a, en décembre 55, fait un trajet en métro. Il le raconte dans ce « Pourquoi j'ai écrit La mulâtresse solitude », un texte tout à fait fondamental qui n'est pas une interview, qui est un texte témoignage. Et il raconte qu'en décembre 55, il est dans le métro avec une vieille femme antillaise qui a partagé une soirée avec lui et qui est complètement bouleversée parce que elle a été l'objet d'attaques anti-noires, racistes. Et André n'y a pas fait attention. Et elle lui raconte ce qu'on lui a dit et il se rend compte qu'effectivement il y a un préjugé tellement ancré que ça a pu lui passer sous le nez. Et il lui dit, dans 100 ans, le racisme aura disparu. Elle lui répond, dans 100 ans, une noire sera une noire et une vieille femme, une vieille femme. Et il se dit, je vais lui répondre un jour par un roman. Comme je suis en train d'écrire un roman juif, j'écrirai un roman noir pour dénoncer le racisme de cette Europe bien pensante à laquelle il appartient puisqu'il s'est pas rendu compte du racisme pendant la soirée. Et donc on peut dire qu'en 55, il pense déjà à la suite, au cycle antillais dont il parle dans les interviews du Goncourt en 59. Et effectivement, il se met tout de suite à écrire une histoire qui est parallèle à celle du peuple juif, qui est celle d'un peuple qui a été victime de préjugés, de persécutions, voire d'assassinats. Et pour terminer cette partie, je dirais que, en plus, le dernier moment en famille, passé en 1943 dans la famille Schwarzbart, qui était relativement pratiquante. C'était un seder, la Pâque, le Pessah de 1943. Et il raconte expressément que c'est lui qui a été chargé de dire le Manishtana. Les quatre questions qui vont amener le père à réciter la Haggadah. Nous étions esclaves en Égypte et le Pharaon, etc. Et Dieu nous en a sauvés. Et il s'est rendu compte du parallélisme entre l'esclavage juif à l'époque de l'Égypte et l'esclavage qu'ont subi les Antillais. Et ça l'a lié définitivement au noir.
Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette soirée de Manishtana, il y a plusieurs chants. Il y a le Manishtana que chantent les enfants. Il y a aussi le Dayenu que l'on chante, Day Dayenu. Et Jacques Schwarzbart, le saxophoniste compositeur que nous avons entendu il y a quelques instants,
qui est le fils d'André de Simone,
a composé un disque qui s'appelle Chazan, qui sont des musiques à la fois guadeloupéennes, africaines, caribéennes et en même temps juives, une musique de une sorte de Jew jazz dans lequel il y a au moins ces deux morceaux, un qui s'appelle Manishtana et l'autre qui s'appelle Dayenu.
Et Jacques Schwarzbart, mais Bernard, le frère aîné qui porte le nom du bébé assassiné avec sa mère à l'époque, oui, à Auschwitz. Tous deux se souviennent parfaitement du Dayenu. Simone aussi, il le fredonne. Donc c'était un titre que André Schwarzbart affectionnait particulièrement.
Merci Francine Kaufmann pour ce beau voyage émouvant au cœur de l'écriture et de la vie de cet auteur si attachant et si important pour notre temps qu'est André Schwarzbart. Merci d'avoir commencé à nous faire découvrir la grandeur de cette œuvre que vous nous proposez, que je vous propose d'approfondir avec vous la semaine prochaine. En attendant, les auditeurs pourront lire ou relire Le Dernier des Justes aux éditions du Seuil, ainsi que La Mulâtresse Solitude aux mêmes éditions, ainsi que votre propre livre intitulé Pour relire Le Dernier des Justes, Réflexions sur la Shoah, paru chez Méridien Klinsek il y a déjà quelques années, en 1987. Merci encore Francine Kaufmann.
Merci Marc Alain Waknin.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc Alain Waknin. À la prise de son aujourd'hui, Valérie Lavalard. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau, Koltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Thank you.